En coloc. Une retransmission proposée par Canal Academy.
La tuberculose est la maladie la plus évoquée en littérature. Autrefois soignée dans les sanatoriums par des cures de soleil et plein air, elle a été réduite par les antibiotiques dans les années 1950. Pierre-Jean Rémy de l'Académie française a réalisé une conférence sur ce thème, la tuberculose dans la littérature, lors de la journée du livre 2008 de l'Académie nationale de médecine, journée placée sous le thème plus général des maladies infectieuses. Pierre-Jean Rémy s'est appuyé sur trois livres, La montagne magique de Thomas Mann, paru en 1923, Le long cours de Georges Simenon, sorti en 1936, auteur très connu pour Maigret, mais peut-être moins pour ses autres romans, et enfin, une lecture de Roland Cailleux. Laissons place sans plus tarder à Pierre-Jean Rémy de l'Académie française.
J'ai choisi, lorsque le professeur Binet m'a proposé, m'a très gentiment demandé si je voudrais faire quelque chose aujourd'hui, j'ai choisi la tuberculose et c'est sûrement une solution de facilité. D'abord parce que la tuberculose est probablement à sa manière la maladie dont on a le plus parlé dans la littérature, qu'il s'agisse de Mimi ou qu'il s'agisse de Violetta. Au XIXe siècle, on était écrivain ou pianiste et on mourait de la tuberculose, si j'ose dire, allègrement et amoureux. Et je dirais aussi que je l'ai peut-être aussi choisi à titre personnel. Je n'ai pas eu la tuberculose, mais j'ai passé une année en préventorium et à Chamonix. Et c'est une année qui m'a apporté énormément de choses. J'en parlerai un tout petit peu en conclusion. Alors, j'ai choisi trois livres totalement différents. D'une part, un roman de Simenon, qui s'appelle « Long cours », qui a été publié en 1936. D'autre part, naturellement, « La montagne magique », on ne peut pas passer sans « Montagne magique » lorsqu'on parle de tuberculose. Et enfin, un livre tout à fait extraordinaire qu'on est en train de redécouvrir, qui vient de ressortir en livre de poche dans la collection « Le serpent à plumes », une lecture de Roland Cailleux. Je commence, si vous voulez bien, par Simenon, dans la mesure où Simenon a beaucoup parlé de la tuberculose, même si on ne s'en rend pas compte. D'abord, vous le savez, l'œuvre de Simenon, c'est Maigret, bien sûr, mais c'est autre chose. Ce sont tous ces romans durs, il les appelait des romans durs, qui sont des vrais romans qu'on a un peu trop tendance à classer aussi dans la catégorie romans policiers, et qui, surtout dans la période Gallimard, des années 35-40, ont été des livres extraordinaires, livres sur l'exil, livres sur la solitude de l'homme qui est monté très haut et qui dégringole, livres aussi sur toutes les parties du monde. Et vous avez vraiment un Simenon voyageur bourlingueur qui nous raconte l'Amérique latine avec un livre comme Quartier nègre, ou qui nous raconte l'Afrique avec un livre comme Le blanc à lunettes, qui sont des livres absolument bouleversants. Et partout, dans la plupart de ces livres, d'une manière ou d'une autre, la tuberculose est présente. Elle est presque présente dans chaque roman. Mais en réalité, cette tuberculose constitue, pour la plupart des personnages qui en sont atteints, d'abord, sont tous des personnages secondaires, sauf, et je vais y arriver, ce sont donc pour la plupart des personnages secondaires et des personnages qui sont destinés à s'effacer. La tuberculose, c'est une sorte de fatalité qui entraîne une fin inéluctable, qui est la mort, ou plus précisément la disparition, l'effacement. Toute une série de personnages secondaires ou troisième ou quatrième niveau ont la tuberculose et on n'en parle plus. Je prends deux ou trois exemples dans un des très très beaux romans de Simenon, un roman horrible, dont on a fait d'ailleurs un film assez beau, qui s'appelle « En cas de malheur ». Le film était avec Jean Gabin et Brigitte Bardot. C'est l'histoire d'un grand avocat qui lui-même a pris la charge d'un autre avocat qui avait un fils qui aurait pu lui succéder, mais ce fils, on l'a envoyé en Suisse, et puis il a disparu, il s'est effacé. Dans un autre très beau livre aussi, beaucoup moins connu de Simenon, qui s'appelle « Les sœurs Lacroix », on a deux sœurs complètement autoritaires, qui ont deux ou l'une d'entre elles a un mari, qui a disparu aussi, et on découvre qu'il est en Suisse. Il est dans la montagne, et on ne parlera jamais de lui. Dans un autre roman tout à fait intéressant, l'un des plus passionnants de romans, de Simenon, je crois que c'était celui qui préférait comme ses romans durs, parmi ses romans durs, entre guillemets. C'est un livre qui s'appelait Le Petit Saint, qui est une description extraordinaire du quartier Mouffetard avant la guerre de 14. Et c'est l'histoire d'un petit garçon qui regarde les choses. Il regarde si bien qu'il deviendra un très grand peintre. Et en fait, c'est ce qu'il ne faut pas savoir si on veut aimer le livre. Et là-dedans, il y a une petite sœur qui l'adore, et puis elle est malade et tous, et puis elle disparaît, elle a la tuberculose. Et c'est vraiment, vous avez des dizaines de personnages dans les 300 et quelques romans de je dirais qu'il y a au moins 80 romans de Simenon dans lesquels dans des Maigret aussi, la tuberculose apparaît comme un sort inéluctable. Mais il y a un livre dans lequel elle affecte le personnage principal, et en réalité, tout son parcours sera en réalité une espèce de fuite en avant devant la justice de son pays, mais également devant un mal qui le frappe complètement. C'est ce livre, Long cours, de Simenon, qui est un livre très négligé, parce qu'il est assez gros, il a 350 pages. C'est pas un des plus réussis, mais on y retrouve toute une série de thèmes qu'on retrouve dans d'autres Simenons. Alors, Long cours, il y a deux personnages principaux. Il y a Jeff Mittel, qui est un anarchiste, fils d'un anarchiste, exécuté, fusillé, je crois, pendant la guerre, qui a 20 ans ou 22 ans. Et il y a Charlotte, qui est également une anarchiste, qui est une bonne à tout faire, mais qui est une anarchiste d'occasion et qui a tué quelqu'un, uniquement pour faire parler d'elle, et lui est amoureux d'elle, et il fuit avec elle. Et lui est tuberculeux, et on le sait dès le début. Alors le livre se divise en trois parties. Il y a d'abord leur fuite dans un cargo, au cours duquel on assiste au premier chemin de croix de Jeff, c'est-à-dire qu'il est chauffeur, il est machiniste dans le cargo, et vous avez 80 pages qui sont une formidable description quasiment néo-réaliste de la vie à bord d'un cargo dans les années 30. Avec un capitaine, une extraordinaire figure un peu, qu'on dirait, sortie de Joseph Conrad, qui s'appelle le capitaine Mops. Et la deuxième partie, donc dans la première partie, vous avez cette fuite dans le cargo, et le capitaine Mops a pitié de cet homme parce qu'il se rend bien compte qu'il est malade, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors il couche avec sa maîtresse, qui en fait est pas sympathique du tout, c'est une garce. Eh bien, il a pitié de l'homme et il s'occupe de lui. Mais on sent déjà le mal, sa faiblesse, ses évanouissements, etc. La deuxième partie reprend un thème qu'on trouve dans d'autres romans de Simenon. En particulier, j'ai parlé du blanc à lunettes. C'est l'établissement de ce couple improbable comme régisseur d'une mine perdue quelque part en Colombie. Et qui est une fausse aventure, une mine qui a complètement été montée de toutes pièces pour avoir des actionnaires qui donneront beaucoup d'argent à Paris. Et là, le malheureux Jeff est de plus en plus malade, et on découvre tout d'un coup qu'il est capable de mouvements d'héroïne extraordinaires, et il arrive à sauver sa maîtresse du typhus. Il y a un typhus, du choléra, c'est le choléra aussi. Et enfin, la troisième partie, il va mourir à Tahiti, et c'est une mort qu'on retrouve alors dans d'autres romans, en particulier dans un superbe roman de Simenon, qui s'appelle « Touriste de Banane », qui est la suite, si j'ose dire, du Testament donné à Dieu, et on raconte donc son agonie et sa mort pendant que Mops, encore une fois, le sauve, mais finit par partir. Et là, cette fin est inéluctable, on n'y peut rien. Alors, la maladie est partout, j'ai dit. D'une part, la maladie, on la sent qui monte, et la dernière partie, c'est vraiment la description d'un homme à qui tout a été refusé et sur lequel la maladie s'abat. Alors, il y a des problèmes, bien sûr, de quarantaine, comme ceux qu'on a évoqués, c'est-à-dire qu'on ne le met pas en quarantaine, mais on le sépare de tous les gens qu'il aime, en particulier de l'enfant qu'il a eu avec Charlotte. On n'est même pas sûr, d'ailleurs, qu'il soit de lui. Il y a les phénomènes de fièvre qui sont évoqués. Il n'a jamais une grosse fièvre. Et si j'en crois aussi la montagne magique, on n'a jamais trop de fièvre quand on est tuberculeux, mais peu à peu, il se laisse aller. Il y a l'inquiétude d'une manière générale qu'il peut avoir vis-à-vis de ce qui va se passer. Il focalise sur l'idée du corbillard qui est moche, qui est déglingué à Tahiti. Et puis alors, il y a toute une description absolument terrifiante de ce qu'il devient. Alors, au départ, la consultation dura plus d'une heure. Deux fois, on entendit Mittel pousser un cri. Eh bien, il fait une belle pleurésie, simplement. C'est grave. Un haussement d'épaule, le docteur se lavait les mains. Mops se servait à boire. Quelques pages plus loin, car il était familier avec les affections des poumons. Il savait que dans certains cas de pleurésie, une opération s'impose et réussit presque toujours. « Je ne crois pas, grommela Brugnon, c'était le médecin. Ah, cela voulait dire que son affection était trop grave à cause des antécédents tuberculeux. La fenêtre était ouverte, une palme balancée par la brise entrait et sortait, etc. » Un peu plus tard, les progrès donc de cette maladie, mais qui n'est jamais racontée, qui n'est jamais dite en spécialiste. C'est vraiment un écrivain qui raconte, à la différence de ce qu'on verra dans Thomas Mann. Quand la fièvre était tombée, il se sent mieux, il était beaucoup plus calme qu'au début. Il atteignait même à une étrange sérénité. C'était peut-être l'effet de la faiblesse. Il pouvait rester des minutes et des minutes à regarder une raie de soleil, à écouter sautiller un merle dans une allée, ou à tendre l'oreille à des voix lointaines, deux femmes qui bavardaient, accoudées à la barrière d'un jardin. C'est cette idée, là, qu'on verra beaucoup plus chez Thomas Mann et chez Cailleux, d'une sorte de moment de grâce dans la maladie, de rédemption. Ça sera rédemption pour mes deux auteurs suivants. Puis alors, il va de plus en plus mal. Il ne pensait presque jamais qu'il allait mourir. Tout cela, c'était bon au début, quand son corps se défendait. Maintenant, il s'assoupissait comme un enfant. Et parfois, il retrouvait des impressions de quand il était petit, des bruits, des langueurs, un engourdissement du cerveau et des membres. Ça va encore plus mal. Et qu'est-ce que vous en pensez, demande-t-on au médecin. De quoi? De Jeff. Combien de temps peut-il encore vivre? Je ne sais pas, peut-être 3 semaines, peut-être 3 jours. Un hoquet peut l'étouffer. Et le hoquet l'étouffe, et la fin, c'est vraiment cette sorte d'effacement, il est mort, sa maîtresse est partie avec Mops, qui l'emmène parce qu'il aime bien coucher avec elle, mais il a que mépris pour elle et il a beaucoup d'affection pour Jeff, et Jeff est mort. Et les deux dernières lignes, c'est Jeff était tout seul à se refroidir dans le bungalow dont la porte était restée ouverte. Donc, dans la plupart tous ces livres de Simenon, mais là de manière très très précise, dans tous ces livres où on parle de tuberculose, cette tuberculose est cette chose contre laquelle on ne peut rien et qui signifie nécessairement la mort d'un personnage. C'est d'ailleurs le titre d'un livre de l'auteur du Hussard sur le toit, la fin de la trilogie. Oui, de Giono. C'est mort d'un personnage, je crois, la fin de la trilogie, Angelo, etc. Eh bien là, c'est la mort, c'est la disparition d'un personnage. Donc, dans aucun des livres de Simenon, la maladie n'est analysée en tant que telle, mais elle joue un rôle, elle joue une sorte de rôle du destin, de la même manière qu'il y a la déchéance de l'homme amoureux. Je pense que d'une certaine manière, comme l'amour, qui peut provoquer une déchéance totale, c'est Simenon, donc cette maladie qui est la tuberculose, et aucune ne joue le même rôle. Il y a des gens qui ont des crises cardiaques, mais personne n'est atteint d'une autre maladie que cette tuberculose qui les fait se terminer. Simenon, c'est un immense auteur, je crois qu'on n'a pas cessé de le découvrir, et il a été longtemps dans une sorte, non pas de purgatoire, mais on parlait de Simenon comme le Maigret, et il faut bien savoir que si certains des Maigrets sont superbes, dans l'esprit de Simenon, écrire de Maigret, c'était une distraction. Pour lui, c'est un livre comme Le Petit Saint, c'est un livre auquel il tient beaucoup. Alors, on ne peut pas, bien sûr, parler de la tuberculose sans parler de Thomas Mann. Dans La Montagne Magique, la maladie est au premier plan. C'est un livre de 900 pages, presque 800 pages. Et c'est vraiment le grand roman de la tuberculose. Tout dans le livre est très noir, très, très sombre et en même temps très lumineux. En même temps, il y a des descriptions d'une nature à Davos qui est d'une beauté et d'un scintillement de neige bleue et froide, d'une beauté extraordinaire. La tuberculose, en fait, pour Thomas Mann, pour le personnage principal de Thomas Mann, Hans Castorp, parfaitement assumé, cette tuberculose est une forme de rédemption, c'est finalement une forme de grâce. Et le personnage de Hans Castorp sera réellement, si j'ose dire, sauvé du destin d'un homme médiocre pour devenir un homme. Alors, je ne vais pas vous raconter l'histoire, vous la connaissez. Hans Castorp est un jeune ingénieur maritime qui vient de terminer ses études, qui doit en principe devenir stagiaire dans une grande compagnie maritime et qui se sent pas bien. Alors, on lui dit d'aller passer quelques jours à Davos. Il se trouve précisément qu'il a un cousin qui s'appelle Joachim, qui est un militaire et qui, lui, a la tuberculose, a Joachim, et il s'est dit, je vais aller passer quelques jours. Je vais aller passer sept semaines. Il y arrive et au bout de 3-4 semaines, on se rend compte qu'il est atteint de la tuberculose et, en fait, il y restera 7 ans. Alors, je crois que jamais une maladie n'a été décrite d'une manière aussi extraordinaire dans une œuvre romanesque que par Thomas Mann. Thomas Mann, dès les premiers chapitres, ouvre à Hans Castorp tous les secrets de la tuberculose. Il arrive vêtu de son costume de sport. Nous sommes en 1911. J'ai oublié de dire que Thomas Mann a écrit ce livre après un séjour qu'il avait fait à Davos avec sa femme en 1911, qui était un peu fatiguée. Et ensuite, il a mis plus de 10 ans à l'écrire, et le livre a paru, si je ne me trompe, en 1923 ou 1924. Et donc, on voit ce jeune homme, accompagné d'un jeune homme aussi fringant que lui, qui a meilleure mine que lui encore, qui soit malade, qui débarque à Davos. Et puis, peu à peu, en 40 pages, Castorp est au fait de ce qu'est la tuberculose. Et tout le livre reviendra sur ce qu'il découvre lors de ses premiers. C'est-à-dire, au fond, la vie dans un sanatorium, avec ses horaires réglés d'une manière extrêmement précise, avec le réveil, les 5 prises de température dans la journée, le fait que la température est toujours autour de 37,4, 35,5, 36, 37,8 ou 38, c'est extraordinaire, avec les examens mensuels, la crainte de ce qui se passera dans l'examen, avec ces horaires dont je parlais, qui reposent sur 3 ou 4 cures de repos dans la journée. Il y a 2 pages ahurissantes qui sont décrites pour montrer comment on apprend à Hans Castorp de s'envelopper de 2 couvertures pour, en plein hiver, pouvoir être sur son balcon et respirer. Et il y a vraiment 2 pages, on explique ce qu'on fait d'une couverture. J'ai essayé de le faire, je ne suis pas arrivé, j'ai pris 2 couvertures, ça n'a pas donné grand-chose. Il y a la description des repas, l'énorme appétit qu'ont les tuberculos, alors peut-être que là on m'apportera la contradiction, l'énorme appétit qu'ont les tuberculeux qui prennent 5 repas par jour, plantureux, très bons, parce qu'ils payent très cher là. Il y a évidemment la sensualité qui va, dit-on, de pair avec la tuberculose et qu'on retrouve exacerbée dans la montagne magique, où je ne dirais pas que tout le monde couche avec tout le monde, enfin il y a des tas de relations que l'on découvre. Et puis il y a l'évolution de la maladie. Il y a les descriptions de points précis de la maladie, comme le pneumothorax, par exemple, qui, je crois, commençait à être introduit. Enfin, il est dans le livre, mais je crois qu'il était introduit depuis peu. Et puis, il y a le stade final. Il y a quelques pages dans lesquelles Hans Castorp et son cousin décident qu'il faut faire quelque chose pour les gens qui vont mourir, et pour ceux qui vont mourir, et c'est le destin de beaucoup, et ils vont leur rendre visite. Puis, il y a la mort. Je vais y revenir. Et puis il y a tout, y compris ce qui fait tellement rire Castorp au début, l'idée que l'on fait partir les cadavres des morts la nuit sur le toboggan de la piste de bobsleigh. Et il y a tout ça. Et puis tout le livre est absolument ponctué par les rapports incessants de cette maladie. Au bout de 7 ans, Joachim, lui, qui a voulu partir et qui est revenu, va mourir. Au bout de 7 ans, Hans Castorp lui repartira, il est devenu un autre homme, mais... Alors, il y a beaucoup d'autres choses que la maladie, bien sûr, dans la montagne magique. Et d'abord, il y a aussi, je passe rapidement, il y a aussi un tableau extraordinairement proustien de la société européenne en 1911, avec des personnages décrits avec un naturalisme et quelquefois une ironie terrible, parce que le livre est très drôle, comme Proust peut être très drôle. Et puis, en particulier, il y a 3 ou 4 personnages principaux qui sont des personnages assez inoubliables Il y a l'humaniste à tout craint qui s'appelle Settembrini, qui est un Italien, et qui essaie de faire un catalogue de tous les maux qui peuvent s'abattre sur l'humanité. En face de lui, il y a un autre personnage qui n'apparaît que vers la fin, qui est Nafta, qui est le jésuite, qui représente les forces obscures, etc., qui déboucheront sur le nazisme, vraisemblablement, alors que quand Mann écrivait cela, il n'y était pas. Il y a un personnage extraordinaire qui lui apparaît tout à fait à la fin, qui s'appelle Peppercorn, qui est un viveur dionysiaque et qui discute aussi. Et puis, il y a une femme bouleversante qui s'appelle Claudia Shosha, qui est une jeune femme plus ou moins ouïghour. Et tous ces personnages, on les voit, on les mélange, et c'est tout ça au rythme d'un temps. Et peut-être que le temps est aussi, comme la maladie, un des personnages principaux de la montagne magique, au rythme d'un temps qui, selon que l'on est malade, selon que l'on prend sa température, ou selon qui n'existe pas. Il y a les 7 minutes et demie, puisqu'il fallait 7 minutes et demie à l'époque, de la prise de température, et qui peuvent paraître très rapides, ou qui n'en finissent pas de s'écouler, où il y a le moi, qui est vraiment la notion de base dans un sanatorium. Quand le pauvre Castor dit « je veux rester 7 semaines », on lui rit presque au nez, les deux médecins lui rient presque au nez en lui disant « mais ici, c'est le moi, notre but. » Donc, il y a ce tableau du temps qui est superbe. Reflet de tableau du temps, il y a donc, je vous ai évoqué tout à l'heure, et j'essaie d'aller vite, cette description de la nature. Et il y a des pages et des pages qui font penser, si on parlait musique, qui font penser, je sais pas, à l'enchantement du Vendredi Saint dans Parsifal, avec la naissance du printemps, qui font penser à Novalis décrivant des montagnes de neige. Qu'il faut penser à tout le contenu des leaders allemands que nous connaissons par Schubert, etc. Et puis, il y a d'autres choses. Il y a l'amour. Il y a la superbe histoire d'amour entre Hans Castorp et Claudia Shosha. Amour, d'ailleurs, dont on peut penser qu'il y a un relent un peu homosexuel, puisque, en fait, il tombe amoureux de Claudia Shosha, parce que quand il avait 12 ans, il était quasiment amoureux, bien qu'il ne le dise pas, d'un petit Kirghiz qui ressemblait à Claudia et qui lui a prêté un crayon. Et le premier geste qu'aura Claudia, ça sera de lui prêter un crayon. Et puis, il y a tous les débats intellectuels qui ont été ceux de cette période entre l'humanisme, etc. Et il y a des pages et des pages de débats. Et c'est là que je rejoins M. Binet lorsqu'il me dit que le livre est un peu assommant pour lui. Il l'a trouvé assommant. Il faut passer sur certains de ces débats parce que ça n'en finit pas. Mais je crois que tout le livre culmine sur deux chapitres extraordinaires qui sont absolument au milieu du livre. L'un s'appelle « Danse macabre ». Et l'autre s'appelle « La nuit de Valpurgis ». Et d'une certaine manière, ces deux livres qui sont en plein milieu, ces deux chapitres qui sont en plein milieu du livre, sont à la fois le pivot du livre et sont le sommet de cette réflexion sur la mort et sur l'amour. Alors, dans ce macabre, vous avez 40 pages qui sont le récit en deux ou trois pages, donc il doit y en avoir une vingtaine, de 20 morts, de 20 malades que notre personnage va aller voir. Et là, c'est des choses... Si j'avais un peu plus de temps, j'avais préparé deux ou trois petites lectures que je ne vais pas vous faire, mais vous me les enlevez. C'est dommage parce que c'est très beau. Il y a la description du jeune homme qui a peur que si on lui fait une opération, parce qu'on sciait les côtes à l'époque, que si on lui fait une opération, ça coûte trop cher à sa famille. Et puis il y a la mort atroce d'une femme qui passe son temps à rire parce qu'elle est très bien. Elle est descendue en ville parce qu'elle se sentait trop mieux. Elle est allée jusqu'à Zurich et elle a eu un problème. Son pneumothorax, il y avait un pneumothorax, son pneumothorax se dégonflait et s'est fait regonfler et on l'a trop gonflé. Donc elle est gonflée et va mourir parce que elle ne peut rien y faire. Elle est totalement gonflée. Et il y a cette description, mais je pense que cliniquement, ça doit être juste, mais je ne peux pas savoir. Alors, c'est une danse macabre dans la mesure où vous avez les jeunes, les riches, les femmes, les laides, les belles, les pauvres femmes, etc. Et c'est totalement hallucinant. Et en écho à ce chapitre, vous avez la nuit de Valpurgis, qui est l'espèce de révélation de Hans Castorp, qui, après avoir vu tout ça, la nuit de Valpurgis, je crois que c'est la mi-carême ou c'est le carnaval, tout le monde se déguise, il y a quelqu'un qui est déguisé en thermomètre, on appelle le thermomètre le frère bleu, et un autre qui est déguisé en bouteille dans laquelle on reçoit les crachats, donc c'est ça le frère bleu. Et autour de cette nuit de carnaval, il ose enfin dire à cette Claudia qu'il l'aime. Il le fait avec une telle violence en lui disant « tu », en lui disant « je parle pas le nom », en lui disant « d'où », elle passe son temps à être choquée, et en fait, ils finiront donc, bien sûr, elle s'en ira, il n'est pas dit, mais il est évident qu'au terme de cette nuit, ils ont couché ensemble, et ça se termine par cette image qui est probablement la plus grande de toute la montagne magique, quand ils veulent échanger leurs portraits, ils ne donnent pas leurs portraits, mais ils donnent leur radiographie. Et à l'époque, les radiographies étaient toutes petites, c'était des petites plaques de verre, et Hans Castorp a dérobé la radiographie de Claudia Chaucha, et il lui donne la sienne, et tout le reste de sa vie, jusqu'en 1914 au moins, Castor portera sur lui la radiographie, le portrait intérieur, comme il dit, de Claudia Chaucha. Alors, la maladie, donc, j'essaie d'aller plus vite, la maladie, en réalité, a fait de Castor un autre homme. C'est donc une étape, son séjour, là-haut, on parle des gens de nous autres là-haut. C'est un séjour parmi des privilégiés. C'est ça qui est extraordinaire. Tous les malades de la montagne magique, d'une certaine manière, se sentent une supériorité avec les gens par rapport aux gens de la plaine. Quand ils ont des visiteurs, même leurs amis, ils les regardent en souriant. Quant aux gens qui viennent faire du ski, alors pour eux, c'est grotesque. Enfin, c'est pas. Donc, il y a une espèce de sentiment de classe, d'élite, qui fera peu à peu que Castorp va. Qui au départ, dans toutes ces discussions, était simplement un interlocuteur un peu silencieux qui écoutait les autres, va peut-être devenir, lui, de plus en plus, une sorte, pardon du mot, de locuteur, et peu à peu, il va se révéler comme un intellectuel. Il va se révéler aussi comme un homme absolument fou de tout savoir. Et vous avez des pages entières où il demande des renseignements sur la biologie, sur la physiologie, sur l'humanisme à Settembrini et sur la vie des insectes, voire il devient également, il herborise. Et tout ça, c'est un savoir qu'il accumule. Donc il va vers une sorte de lumière qu'il culminera par son amour. Mais dans le même temps, il faut bien se rendre compte tout ça, pourquoi? Donc il est complètement transformé, mais la manière dont il accumule les sciences est un peu grotesque. La manière dont il essaie d'apprendre, je ne dirais pas que c'est très germanique, mais en tout cas Thomas Mann le présente comme quelque chose qui est au-delà de l'absurde, mais qui est voulu par cette espèce de désir qu'il a de profiter de plus en plus d'une atmosphère. Et au premier degré, la fin de la montagne magique est terrible, je ne vous lirai pas non plus la dernière page. Il est guéri, il s'en va. Et il fait quoi? On l'envoie au front. C'est 1914, c'est fini. Et ça se termine comme ça. Donc, tous ces 7 ans pour arriver à une balle dans le front, vraisemblablement, ou ailleurs. Et puis, au deuxième degré, c'est aussi pessimiste, dans la mesure où tout ce qu'il a appris, c'était un peu dérisoire. Il a appris à parler, il a appris, mais il est passé à côté, peut-être, de l'essentiel, puisque son histoire d'amour avec Claudia Chaucha se termine dans la mesure où l'amant de Claudia Chaucha, l'extraordinaire Peppercorn, qui est probablement celui qui lui a appris le plus, on ne voit qu'à la fin, se suicide. Donc, La montagne magique est un livre à la fois terrible et bouleversant de lumière sur une maladie terrible qui était donc la tuberculose. Je termine, pardonnez-moi, j'essaie d'aller vite, mais je veux parler quand même de Roland Cailleux, parce que Roland Cailleux, c'est un écrivain qu'il faut découvrir. Roland Cailleux était médecin, il est mort en 1980, il était, je crois qu'on dit, curiste, il travaillait à Châtel-Guyon. C'était un ami à la fois de Céline de Rebatté d'un côté, de Nimier, de Malraux, il a été ami de tout le monde. Il avait écrit un premier roman chez Gallimard qui s'appelait Saint-Jeunesse, qui a été complètement oublié. À sa mort en 1980, le Mercure de France a publié une sorte de petit bouquin mal foutu d'hommage à Roland Cailleux, mais il est l'auteur d'un livre extraordinaire qui s'appelle Une lecture, qui est paru en 1949 et qui est, comme La montagne magique, l'histoire d'un homme pas très intéressant, dans le cas présent un fabricant de verreries de luxe, un mondain, ça se passe à la fin des années 30, qui a son quartier général au café Weber, près de la Madeleine, qui est ami avec Jouvet, avec Dulin, avec Giraudoux, plutôt qu'il les côtoie, qui est une maîtresse qui s'appelle Dora, qui est une actrice qu'il méprise un peu, qui a un frère qui s'appelle Gérard, qu'il adore. Il a une voiture Delahaye, et la moindre éraflure sur sa Delahaye le met dans un état de maladie épouvantable. Il est rive droite et il en est fier, face à la rive gauche. Et puis subitement, il apprend qu'il a une légère atteinte pulmonaire. Cet homme qui a une quarantaine d'années, donc, ne va pas en sana, il sait que c'est pas très grave, et il va à Grasse, il s'installe à Grasse où il habite chez l'habitant. Alors, dans le livre même, il y a très peu de choses sur sa maladie. Bien que la maladie, l'espace du livre soit le temps de sa maladie. Il y a la révélation de sa maladie, il y a les visites au médecin, il y a quelques détails sur ses fameuses faibles températures, sur les radioscopies aussi, la radioscopie et la radiographie jouent un rôle aussi. Et puis, il y a ces pulsions sexuelles dont on dit aussi qu'elles sont proches. Mais à la différence de la montagne magique, il y a un terme qui est fixé. Quand Castorp arrive dans son sanatorium à Davos, on ne sait pas. Une fois qu'il sait qu'il est malade, on ne sait pas combien de temps il restera là. On lui dit « vous resterez 8 ou 9 mois ». Et à la différence de la montagne magique, il ne voit personne en dehors d'une jeune femme, d'une petite pâtissière avec laquelle il couche et qui d'ailleurs sait prendre lui. Il n'y a pas de conversation. Et pourtant, pour lui aussi, la maladie est une révélation. C'est une forme de transfiguration. Et tout le livre raconte cette véritable transmutation d'un homme mondain, sans intérêt, en un personnage hanté par quelque chose. Et ce quelque chose, c'est Proust. Et tout le livre n'est qu'une... J'y reviendrai. Tout le livre est une sorte de critique, d'analyse critique de Proust. Alors, dans tout le livre, Bruno lit Le Temps perdu, lit La Recherche. Il savait pas ce que c'était, il en a trouvé 2 volumes chez sa maîtresse, ça a eu l'air de l'intéresser, il savait même pas, ça se passe en 35-36, ça se passe en 36, plus précisément. Il savait même pas que Proust était mort. Il commence à le lire, et peu à peu, il fait cette lecture de Proust. On vit au rythme de cette lecture de Proust. Il en fait une sorte de lecture personnelle, établissant des rapports entre celui qu'il appelle Marcel et lui, entre Swann et lui, entre ses maîtresses et Odette, Gilberte, Albertine. Et tout le livre, on le voit, il passe d'un volume à un autre. Il lui manque de volume, il se les fait envoyer. Et tout le livre ne raconte que l'aventure psychologique de ce personnage qui lit Proust. Mais en même temps, c'est une extraordinaire lecture au sens critique du mot aujourd'hui, une lecture de Proust totalement personnelle, vue à travers un homme qui ne savait rien de Proust, qui arrive peu à peu à se faire habiter par Proust et qui donne envie de lire Proust, bien sûr. Tout ça est très personnel, il a très vite beaucoup de mépris pour Swann, qui est très bien, etc. Mais enfin, Swann, c'est un viveur. Il est très touché par Marcel, puisqu'il l'appelle Marcel au début. Et puis, tout d'un coup, il trouve que Marcel est bien égoïste. Et en particulier, il y a des très belles lignes sur l'amitié, dont on pourra reparler lors d'un colloque Proust sur l'amitié que M. Pouliquen a la gentillesse de nous permettre d'organiser à la Fondation Saint-Germain-Polignac. Il y a des très belles pages sur l'amitié, et puis il trouve que finalement Proust est vraiment très égoïste en amitié, alors que Saint-Loup est un type merveilleux. Et puis, peu à peu, il va revenir vers Proust en se rendant compte qu'au moins Proust, lui, il débouche sur quelque chose. Il y a des pages terribles sur Odette, il y a des pages très méchantes sur Gilberte, et tout d'un coup, il y a une espèce de découverte d'Albertine. Et Albertine, peu à peu, lui apparaît ce qu'est sa maîtresse Dora, c'est-à-dire une femme ambiguë. Dora aime peut-être un peu les femmes, mais elle est un peu comme ça, facile, elle va de l'un à l'autre, mais il y a une espèce de richesse en elle qu'il n'y a dans aucun autre personnage. Et lorsqu'il quittera Grasse, c'est quelques 50 pages avant la fin, eh bien, il essaie de faire lire Proust à tout le monde, il tombe de haut, le monde qu'il voyait à travers Proust est un monde donc des années 36 où les patrons sont assez mal vus, où... tous ses amis l'ont quasiment oublié, où son frère Bruno couche avec sa maîtresse à lui, avec Dora, Et c'est aussi un livre d'un grand pessimisme, dans la mesure où tout ce qu'il a appris, bien, il espérait trouver quelque chose dans la vie de tout ça, et il ne trouve rien. Il ne trouve rien, il trouve le milieu des affaires, la verrerie qui devient de plus en plus industrielle, mais le livre est un passage à la fois par Proust et par la maladie, et la maladie donc est un moment donc essentiel, mais vital de la vie. Alors, juste en conclusion, je voudrais dire qu'à 14 ans, j'ai passé une année en préventorium à Chamonix, au pied du Brévent, et que pour moi, ça a été une année capitale. C'est là que j'ai commencé à lire Proust à 14 ans. C'est là que j'ai commencé à, je crois, devenir aussi un peu, modestement, avec moins d'éclat que Cailleux, je crois, un autre homme. Donc, je ne sais pas ce qu'il y a de vrai dans cette espèce de révélation que pouvait apporter la tuberculose à une époque où c'était quelque chose, où c'était un passage obligé de beaucoup de jeunes en France ou beaucoup de jeunes en Europe, comme Cailleux ou 50 ans avant comme Thomas Mann. Mais je pense que j'ai voulu parler justement de la tuberculose à travers ces trois exemples qui, chez Simenon, est l'effacement, et chez les deux autres, même si ça conduit à une balle dans la tête en 14 et au retour à la vie mondaine en 1936, est quand même un grand moment de la vie d'un homme. Voilà, je vous remercie.
Pierre-Jean-Rémy développait le thème de la tuberculose dans la littérature au regard de trois ouvrages, Le long cours de Georges Simenon, La montagne magique de Thomas Mann et Une lecture de Roland Cailleux. Une intervention qui se déroulait dans le cadre de la journée du livre de l'Académie nationale de médecine à Paris. Cette journée ouverte au public s'est déroulée en septembre 2008. Restez à l'écoute de nos émissions et téléchargez les interventions consacrées à la grippe espagnole et au sida, deux autres sujets placés sous le thème des maladies infectieuses. À bientôt pour de prochaines émissions.